Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 26 juillet 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Éphémère. S'invite dans vos oreilles avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV est sorti.
Suivi de...
Ça c'est du sport et résultats sportifs en direct des VCR, l'infirmerie et des tribunaux. Hein.
Et ensuite...
et ben à 15h, César Mafarai avec du reggae, avec Poupa Christopher. Et à partir de 17h, c'est Booster FM et vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Bonjour et bienvenue. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Voilà, j'ai oublié de monter les sons. On a eu du bol, on a pu faire l'émission dans les conditions du direct au dernier moment, puisque donc tous les émetteurs des radios associatives ont pété cette nuit. Et on remercie Guy Mimard sur le site émetteur d'avoir réussi à récupérer de l'équipement pour le faire fonctionner. Donc on a tout eu. Hein. Depuis que je fais la radio, il y a eu le Tour de France, les garottes qui inondent des studios, les gendarmes qui débarquent, on a toujours tout eu. Là, c'est ça se passe, ça tombe bien, je vérifie. Ouais, on est à l'antenne, ça tombe bien, hein. Voilà. On va se faire une ouverture tranquille, là, doux. C'est parce qu'il fait... ça s'est refroidi un petit peu dehors, alors on met un petit peu de chaleur. Extrait de l'album Hold Your Color de Pendulum, Sound of Fire avec Jess Manny. Pendulum. Comment ça, la drum and bass, y en a marre?
Ah non, j'ai pas dit qu'il y en avait marre, j'ai dit que c'était le grand retour.
Ah oui, bah et encore, c'est que pratiquement toutes les ouvertures du supplément week-end et de l'émission qu'il y avait avant, qui était Brouillon de Culture, c'était de la drum and bass.
Ouais, des exceptions.
Ah, une exception. Une exception, qui était une reprise disco de l'Empire Contre-Attaque, pour les 25 ans de la radio. Et là, le prochain, c'est de la drum.
Oh non.
Ouais, comme quoi, il y a des gens qui évoluent, tu vois, avec ouais. Le temps, mais bon, il y en a d'autres qui restent.
C'est ça. Prochain, c'est ça. Mais on fera pas écouter.
Ah ouais,
on
non, ça va, là ça va.
Oh, attends, merde.
Là ça va.
Alors c'est quand ce nouveau générique?
Ah, mon avis sera pour fin août.
Ouais, la rentrée.
Et puis
quoi.
Il faut encore qu'on fasse le brainstorming pour le nom de la saison 5. Je sais pas, un nouveau départ ou je sais pas ou.
Next Generation.
Contre-attaque.
Next Generation contre-attaque. Alors un mélange entre les Spice Girls et George Lucas. Oula, ça va être quelque chose de costaud et de serré, je sens. Enfin bon. Ami auditeur qui peut nous écouter ou ami qui nous écoute sur le podcast, eh ben sachez donc que la semaine prochaine il y aura lieu à Eos. Eos, c'est un petit village du Gers qui fait quoi, qui fait dans les 12 000 habitants, enfin, beau bourg hein, quand même.
Ouais, enfin j'irai pas jusqu'à 12 000, hein, je pense qu'il y a moins.
Il y a une très jolie église, il y a aussi un beau prieuré, il y a plein de caves, c'est la capitale de l'Armagnac, et c'est en plein dans le Gers. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en milieu d'août à Eos? Eh ben, ils ont une fête de la musique, et à côté de cela, il y a un médecin de famille qui aime beaucoup la BD, qui a dit « Ah, mais il y a plein de dessinateurs de BD dans le quartier, si on organisait une fête de la BD ?» Ça fait depuis pratiquement 15 ans que ça existe. Ça marche très bien. Honnêtement, ça vaut pour l'ambiance, parce que, primo, l'entrée est gratuite. Secondo, ils font venir des Belges. Des Belges en plein cagnard, c'est tout rouge. Alors qu'en plus, pendant 3 jours, on leur avait fait faire le tour des caves d'Armagnac. Ah. Ça dessine tout rond, hein. Voilà, c'est mignon, quoi. C'est
faudra bouger la chromie au moment de publier les photos après.
Voilà, c'est à peu près ça. Ça se passe avec plein de choses qui sont plutôt intéressantes. Alors, ça dédicace uniquement le dimanche. L'entrée est gratuite, ce qui est à signaler. Les dédicaces sont de 10 à 13 heures, puis de 15 à 19 heures. Il y aura la veille un concert du Boys Band dessiné. C'est le groupe qui a été fondé par Thierry Tinlot à l'époque où il était rédacteur en chef de Spirou et où il y avait entre autres Yvan Delporte qui chantait. C'est un groupe de rock avec il y avait le dessinateur du petit Spirou, il y avait le coloriste du studio Cerise et tout ça se tapait le bœuf, c'est assez rigolo avec des paroles très très marrantes. Ça vaut le coup, ça c'est le samedi soir. Et donc le lendemain, donc vous avez plein de choses à voir. Il y a toute une poêlée d'auteurs qui viennent pour dédicacer. Il y a aussi une exposition de planches originales de Smoujda qui aura lieu sur place. Il y aura aussi une exposition de planches d'Olivier Boiscommun, ça c'est à l'abbaye de Flarens. Il y aura des ateliers de dessin, il y aura une BD Tech en libre consultation, il y aura 2-3 librairies avec occasions et nouveautés. Il y aura aussi des fanzines avec des fanzinistes principalement toulousains de la région. Il y a aussi des bordelais qui viennent et plein d'auteurs. Alors ces auteurs, soit sont des Belges qui vivent sur place, soit c'est des sur place qui publient en franco-belgie, soit c'est des Français qui viennent d'assez loin exprès pour, soit c'est des Belges qui viennent exprès pour, et des fois on a des grandes surprises puisque on avait fait l'interview comme ça de Tom et de Jean-Ry dans cette émission en 95, alors qu'ils étaient réputés pas franchement accessibles et tout ça. C'est l'occasion, on peut vraiment discuter avec eux, c'est vraiment agréable. On y trouvera HD, qui est le dessinateur des nouvelles aventures Lucky Luke, mais avant ça, il a fait CRS Détresse, ce qui était un petit peu mieux. Joël Azara, qui est un vieux de la vieille, hein, lui...
Takata.
Exactement.
Ouais, le refais à chaque fois, Ali, hein, quand
Oh, ben ça, c'est ma jeunesse, attends, ouais.
ça a ne pas manqué, non, mais vraiment, hein, c'est vraiment sympa comme bande dessinée. Il y aura Batem, qui est le dessinateur actuel de Barsupilami, Frédéric Bézian, qui lui vient de l'autre côté de Toulouse pour Les Garde-Fous, entre autres, mais il a aussi fait Chien Rouge, Chien Noir et Adam Sarlek. Yabiz, qui est un dessinateur auto-édité. Relativement peu de dessinateurs de presse comparé aux années précédentes. Olivier Boiscoma, dont il y aura une expo de planches originales, qui est le dessinateur de Troll chez Delcourt, qui est vraiment une bande dessinée graphiquement fabuleuse. Il dessine aussi Halloween et Pretolino. Il y a Fabrizio Borini qui dessine Karma, Al Koutelis qui fait AD Grande Rivière, Le Grec ou Welcome Land, donc un panel assez large. Il est aussi rédacteur en chef d'un magazine sur la bande dessinée. Philippe Delabie, dessinateur de Morena et de La Complainte des Landes Perdues. DJ qui fait les bébés de BD et aussi Caméra Café. Philippe Druyer, ancien d'Éphémère, yes, qui dessine Salambo, qui dessinait Salambo, Lanceloine, et maintenant il dessine plutôt des meubles et des bijoux. Ernst, qui est le directeur artistique du salon, entre guillemets, un directeur artistique, c'est plutôt informel comme organisation. Il fait les zappers, enfin maintenant ça s'appelle Génération Zapping, et clin d'œil. Jean-Louis Garrera, qui dessine Vélo Maniaque chez Bambou. JF qui fait Haute Sécurité et Les Enchaînés. Patrick Goulesque qui dessine l'énigme de Pompina, si je me trompe, c'est chez nos amis de Mince de Milan Édition. Jean-Ri qui dessine Le Petit Spirou et Spirou et Fantasio, sachant que je crois qu'il vit plus en Europe, hein, donc il revient exprès pour l'ambiance. C'est ça qui est vraiment agréable. Philippe Jarbinet qui dessine Sam Bracken et Mémoire de Sambre. Patrick Lacan qui fait Triste Utopique, ça vient de sortir chez Boîte à Bulles. Lesca, Drôle de Cirque, Bref de Trottoir, bref, bon, ça c'est de l'humour. Maester, Sœur Marie-Thérèse, Meurtre Fatal, mais surtout L'Actutu qui est sa compilation de dessins qu'il fait sur son blog, ça vient de sortir chez Le Lombard. Lionel Marty qui dessine Le Rêve de Jérusalem et Mort Linden. Marco Moreno qui dessine Petite Louve, Le Régulateur. Jean-Louis Mourier, dessinateur de Troll de Troyes chez Soleil. Laurent Noblet qui fait Adostar. Gilles Pascal, Irlandaise, édition qui sort aux éditions du Point d'Exclamation. Michel Pierret qui dessine Les Ailes Décapitées et qui aussi dessine une bande dessinée, une hagiographie à la gloire de Zidane. Gramir Zmoujda qui fait Le Bordel des Muses, Vincent et Van Gogh, Benoît Soucal qui dessine une série qui est extrêmement célèbre qui s'appelle Canardo, il a aussi été directeur artistique sur un jeu vidéo. Stiban qui dessine Caméra Café pour Casterman, Chevalier de l'Aspalès chez Jungle, ok, c'est du supermarché, ouais. Mais il a fait aussi un Sherlock Holmes chez Le Franc qui était pas trop mauvais. André Téman, dessinateur de Sibylline mais surtout de Caroline Baldwin, qui est vraiment un polar qui se passe au Canada, dont on parle régulièrement.
C'est une sœur cachée
Pas tellement. Georges Valentou qui dessine qui scénarise Caméra Café, mais il fait aussi Twins et Falkenberg, et ça c'est très bon. Vink, dessinateur fou furieux du Moine Fou et des Voyages des Pao, il est très sympa, c'est un Cambodgien qui a un trait aquarelle qui est vraiment impressionnant, hein. C'est vraiment de l'estampe sur chacun des dessins, et c'est vraiment d'une très très bonne qualité. Et Roger Widem Locher qui vient là en tant que voisin, puisqu'il dessine Nabucco Dinosaur, mais aussi il fait la reprise actuelle de Achille Talon. Bref, tout cela, c'est à Eos, dimanche prochain, de 10h à 19h, l'entrée est gratuite. Alors, pour vous situer Eos, vous prenez la Nationale 134, vous passez Hoche, c'est entre Hoche et Mont-de-Marsan. C'est entre la feria de Vic-Fezensac et le musée du Condon le musée du préservatif à Condon.
C'était un sketch répété. Hein.
Non, même pas. Et c'est pas loin du circuit Paul Ricard pour ceux qui.
À Nogaro, ouais.
Voilà, à Nogaro. Voilà, ça.
C'est avant Nogaro quand vous venez d'Auch.
Alors, et ça peut vous sembler étonnant. C'est une grosse tartine de dessinateurs. Il y en a une trentaine. Mais justement, ils se limitent à avoir 30 dessinateurs. Il y en a plein hein, qui veulent revenir chaque année. Il y a un parking municipal qui est très bien, des promenades à faire qui sont pas mal du tout. En plus, au camping municipal, il y a une piscine. Il y a évidemment toutes les caves à faire autour. On peut y aller exclusivement pour la journée. Moi, j'en ai de très bons souvenirs. De la gentillesse des organisateurs, du plaisir qu'il y a à être dans cette ville, du coup, des dessinateurs qui sont accessibles. Et du public qui vient là, qui n'est pas franchement forcément fan de bande dessinée, hein, c'est des gens qui viennent pour l'occasion. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. En plus, en fanzine, on a des trucs qui sont pas mal du tout. Donc ça commence à devenir ça commence. C'est un rendez-vous régulier. Ça, ils ont pratiquement 15 ans d'existence. Et ça vaut le coup d'être fait pour l'ambiance. Voilà. Sachant qu'en plus, il y a l'apéro, il y a le repas, il y a le dîner le soir.
Ouais, ouais. Et si vous n'aimez pas les alcools forts, justement, genre Armagnac, il y a également le floc, le pousse rapière et tout ça.
C'est du coin.
C'est du coin.
Et vous pourrez voir l'état de nos amis belges. C'est plutôt efficace. Voilà.
C'est dommage que ça se déroule que sur un jour, en fait.
Ce serait difficile, je pense, à faire autrement. D'accord. Ça, c'est mon avis personnel. L'ennui, c'est que tout le monde n'est pas là le samedi. Et en fait, ils veulent justement faire en sorte que ça reste un plaisir pour les dessinateurs, pas que ça soit l'abattoir. C'est pour ça que, bon, ils prennent le temps pour le déjeuner.
L'abattage.
Si tu veux. Enfin, c'est pas si tu veux, c'est je me suis trompé. Moi, je pense qu'il vaut mieux justement que ça reste quelque chose relativement limité. Ne courez pas forcément après les mecs qui sont archi connus, enfin, qui font de la bande dessinée archi connue, style le petit Spirou. Même s'ils dessinent très vite, ils saturent hein, quand même et il y a la queue devant. Par contre, Vink, ça vaut le coup. Ou encore Druyer, là aussi, ça vaut le coup. Honnêtement. Donc voilà, c'est le festival de la bande dessinée des Oz. C'est donc dimanche de la semaine prochaine, de 10h à 19h. Je pense qu'on y fera un tour. Je sais pas si d'autres après veulent nous suivre. Mais ça vaut le détour, quoi. Au moins pour le paysage, parce que c'est un chouette coin. Honnêtement, il y a de très très belles promenades. Midi et 18 minutes sur Poubelle des Radios, est-ce qu'on aimait toujours ? Oui, vous êtes sur FMR 89.1 MHz.
Coucou.
Voilà, le disjoncteur n'a pas encore sauté. Oui, parce qu'on vous explique, on a pris un disjoncteur de Kitchenette pour faire tourner 5 émetteurs de radios. Donc si vous nous écoutez plus, si vous entendez plus en direct, n'essayez pas de passer sur Campus, sur Booster, sur Canal Sud. Tout le monde aura disjoncté en même temps, voilà. Donc on va essayer de pas trop faire péter les watts. José, on entame les sorties bande dessinée. On va commencer par l'angoisse et ensuite on fera du bourrin.
Ouais.
Bourrin comme noir. Doug Moench. Je sais pas si je le prononce bien. C'est Doug Moench, s'il le faut. Au scénario, Kelly Jones au dessin. Batman and Dracula. Pluie de sang. Ça vient de sortir dans la collection DC chez Panini. Et il y a marqué, il y a un petit sticker avec marqué pour lecteur averti.
Ça fait peur.
Ah et oui, ça fait peur. Gotham City n'a jamais été une ville aux rues sûres, mais il est actuellement malsain d'y être sans abri. De plus en plus de vagabonds disparaissent, bien évidemment sans que la police ne s'en aperçoive. Mais il arrive parfois que l'on trouve des cadavres avec une horrible plaie qui en barre le cou. Bruce Wayne, jeune dandy à la fortune établie, fait de drôles de songes, la vision obsédante d'une femme sensuelle mais inquiétante qui l'empêche de dormir. Et dans ses nuits, d'insomnie, en se baladant dans le costume de Batman, il va découvrir cette étrange série noire de meurtres sans clan. Tout comme le commissaire Gordon, au vu du modus operandi, faut-il croire au vieux mythe ? Vieux mythe peut-être, mais alors mythé. C'est un Batman qui se veut moins flamboyant, plus tragique, dans la lignée horreur gothique du roman de Bram Stoker. Hein, que tout le monde a lu, forcément, hein, avec Mina et tout ça, l'américain spécialiste chasse de fauves et tout le reste.
Van Helsing.
Oui. Mais c'est là que tout se casse la gueule. Quelle logique à l'origine de Batman sans ses bandits désaxés. L'inflation de mignons à la solde du compte ne tient au bout d'un moment que difficilement. Sans compter l'aide providentielle qu'est Tania, qui tient décidément bien mal le coup quand elle raconte son passé. Là, c'est franchement l'explication de trop. L'histoire, ne tient que difficilement la lecture. Le dessin n'est guère mieux placé. Les visages de Gordon, d'Alfred, de Tania ne se ressemblent pas parfois sur la même planche. On se dit, c'est la même personne là. On n'est pas très sûr. La ville de Gotham ressemble plus à un gros bourg allemand qu'à une sombre mégapole de l'ère victorienne. Bref, son aspect décor de théâtre laborieux n'arrive même pas à soutenir cette pièce qui ressemble plus à une farce qu'à un vibrant hommage. L'idée avait de la superbe, Batman et Dracula. Mais elle tombe littéralement à plat. C'est bien regrettable car il y aurait des choses à faire. Mais maintenant que le gâchis a été fait, ben... c'est cuit. Doug Moenk au scénario, Kelly Jones au dessin, Batman and Dracula, pluie de sang. C'est pas bon. Thanatos, deuxième tome vient d'arriver, toujours Didier qu'on va à l'écriture et Jean-Yves Delitte à l'illustration. Le deuxième tome s'appelle Le Jour du Chaos, ça vient de sortir dans la collection graphique chez Glénat. Thanatos, c'est le génie du mal. Ce qu'il est capable de concevoir défie tout bonnement l'imagination. Il a décidé de mettre son intelligence extraordinaire au service exclusif de son profit personnel, quels que soient les crimes qu'il puisse perpétrer. Très en avance sur 1914, il a conçu des engins aéronefs particulièrement redoutables, capables de bombarder une petite ville. Financier hors pair, il sait toujours s'en sortir pour faire gonfler ses actions, et donc son compte en banque. Manipulateur, il n'hésite pas à se faire passer soit pour un baron de l'industrie, soit pour un ténor de la politique, afin de manipuler les élites de la nation. Criminel d'envergure, c'est un assassin de la pire espèce, capable de déclencher une guerre mondiale pour couvrir ses méfaits. Le commissaire Bernin de la police judiciaire aurait bien du mal à traquer l'individu s'il n'était pas aidé par Louis Victor, l'enquêteur de la célèbre agence Fiat Lux. La tension monte alors que la traque de l'immonde Thanatos est de moins en moins une priorité nationale, même si Bernard n'en décroche pas et Louis Victor non plus. Car ce mois de juillet 1914 s'annonce particulièrement chaud, les tambours de la guerre résonnent dans toute l'Europe, et bientôt la France va être le théâtre d'une immense tragédie. Car nous savons déjà, en tant que lecteurs du futur, que la voix des pacifistes sera étouffée par le son du canon. Qui aurait pu croire que l'auteur de ce massacre n'est autre que Thanatos, uniquement motivé dans le profit financier de la vente d'armes? Didier Convard livre ici sa deuxième partie de ce qui se veut une introduction, un hommage au roman feuilleton du début du XXe siècle. Petit regret par rapport au premier tome, Jean-Yves Delitte qui était allé, c'était pas mal lâché dans les coupures de presse avec des allusions plutôt rigolotes, bien senties. Ici il se montre nettement plus sage. Et Monsieur Clémenceau, il faut faire quelque chose. Les foules acclament plus la racaille que les gendarmes. Ça c'est extrait de... Monsieur Clémenceau, non, j'ai pas la musique, c'est pour ça. Didier Combard au scénario, Jean-Yves Delitte au dessin, Thanatos, le deuxième tome s'appelle Le Jour du Chaos, ça vient de sortir dans la collection Graphica chez Glénat. Alors, bah tiens, on va passer un petit extrait le temps que JB se mette en place.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. quand vous menacez d'une âme, quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Ouais, Dutronc, c'était juste le temps que JB positionne bien son micro, pas qu'il se tape la bavette et tout ça, on a rien à foutre, quoi.
Nom, nom, nom.
Va béné.
On parlait de cinéma.
Ouais, bah nous, on parlait d'émetteur. Et apparemment, on espère que ça tienne. Peut-être avec un peu de chance, Booster pourrait émettre. Je l'ai plein. Sinon, passez ici, hein. Ce sera plus simple. Thomas, je crois que tu avais du flingage.
Non, c'est pas du bourrinage.
Ah, bourrinage. Excuse-moi, alors je modifie mon planning. Ok.
Bourrin.
Bourrin. Attends, on va mettre du baston. Vas-y.
Alors, nous avons une BD qui s'appelle Les Chouchous de Rouchou. Scénario Tot, dessin de Ancestral Z, Bruno Waro et Mojo Jojo, Shiankama. Et ces noms-là vous disent peut-être quelque chose. Ils sont déjà responsables de Dofus et du très spécial Kaoland. On en avait déjà parlé.
Prends ça dans ta gueule.
Gultar, le pourfendeur, l'assassin, le tueur de démons, un assurance touriste, berserker ayant massacré un village entier, qui s'appelle d'ailleurs Nit Shimalan, insensible à sa poésie.
Oh là.
Point, 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 point.
Ah oui, bah oui, c'est l'humour de fou, ça. Donc il a...
Ouais,
il a
JP, si t'as pas l'habitude.
Donc il a buté un village entier parce qu'il était insensible à sa poésie. Et il a enchaîné, il est enchaîné depuis des siècles dans une grotte. Mais la jolie Algat est mandatée par un village détenteur d'un œuf, Dofus, pour lui demander son aide, car les quatre démons envoyés par Rouchou ont débarqué d'un portail dimensionnel, et quand ils passent, l'herbe ne repousse pas. Mais certains habitants sont sceptiques, comme le grand, le puissant, le vantard, Bilouf. Ah, liaison avec la chronique suivante. Oh, oh, oh. Donc, ce qu'on peut dire sur le bouquin, c'est que c'est surtout un album prétexte pour donner la carte pour les joueurs de Dofus. Puis c'est, il y a toujours un album par an comme ça chez Ankama. En fait, c'est un prétexte. Alors là, la carte, elle y est plus. J'ai donné à un joueur. Et en fait, ça, tu grattes en fait et tu as des codes pour avoir un familier en plus dans le jeu. Alors la BD, il faut, ben voilà, il faut savoir que c'est dans l'esprit de Dofus, hein, donc l'humour aura des pâquerettes. Ça, c'est rigolo, hein, mais bon, faut apprécier. C'est du bourrin kawaii, hein, puisque c'est le design des personnages est assez spécial.
Ouais, c'est clair. On est très loin justement d'une surstandardisation des shonen équivalents.
Oui, voilà.
Graphiquement, on sent que quand même ils prennent le temps, hein, de s'éclater, de trouver des effets graphiques voilà. Assez étonnants.
Et donc en fait c'est un joyeux bazar, puisque si vous voulez vous procurer ce bouquin pour la baston, il faut repasser un petit peu, il y en a, mais elle est traitée assez spécialement, puisque c'est un peu brouillon, c'est un peu bazar, t'as pas vraiment de l'action à la shonen, ce qu'on disait tout à l'heure à la manga, c'est plutôt on dirait que c'est un passage obligé, mais ils s'amusent quand même aussi, c'est un angle assez spécial qu'ils ont pris, c'est des parties pris qu'il faut aimer. Donc voilà, c'est l'absence de finesse du personnage principal, parce que bon, le personnage Gultar le barbare, c'est quand même l'un des personnages les plus intéressants de la BD de Dofus, hein, puisque c'est un gros barbare qui a trois entités à l'intérieur de lui. Donc pour pas spoiler la série Dofus, on va pas en parler, mais par contre il faut savoir que si vous avez pas lu Dofus, les chouchous de Rouchou, c'est assez compliqué à suivre, hein, surtout la fin, vous comprendrez rien si vous avez pas lu Dofus avant. Donc les dialogues, alors déjà il faut savoir que le visuel c'est assez représentatif, puisque il y a quatre démons, l'histoire est divisée en quatre parties et chaque partie a une et chaque partie est monochrome avec une couleur différente. Voilà, donc c'est suivant les thématiques. Donc il est, on le voit dans la prison. Ensuite c'est la un peu l'histoire d'amour. Ensuite c'est la baston, etc. C'est assez divisé. Alors on peut voir aussi pas mal de répliques particulièrement savoureuses par la tempête de Ventilo, par les météores de Pyrax. Puisqu'il faut savoir que les quatre démons, ils obéissent chacun à un élément, la terre, le feu, machin. L'air, le feu, l'eau, la terre, vous me fatiguez avec vos concepts de merde, un bon bourre pif à l'ancienne, c'est encore le mieux. Ah, j'aime sa philosophie. Voilà, donc c'est à conseiller surtout aux fans de Goutard. Hein. Donc bon, après, les fans de cinéma asiatique reconnaîtront, parce qu'en fait, il sort une arme de son bras, et l'arme, c'est une épée brisée au bout d'une chaîne. Peut-être que ça vous dira quelque chose. On a aussi un hommage aux aventures de Jack Burton. Il dit, tiens, j'ai connu une grenouille qui a éclaté pour moins que ça. L'allusion à Beowulf, bien sûr, puisque à un moment donné, il y a la gamine du gars qui s'appelle Bilouf. Elle lui dit, oui, ton nom entrera dans la légende. Oui, tout le monde saura qui tu es. Voilà. Il y a aussi une référence à Saint Seiya. Il y a même Bienvenue chez les Ch'tis. Donc voilà. Donc,
ils sont bien placés en plus.
Oui. Bon, voilà. Donc il faut savoir. Il faut quand même feuilleter un peu avant de l'acheter, hein, cette BD, puisque c'est pas une BD commune, on va dire, mais c'est quand même un truc qui vaut le coup. Bon, on va juste reprocher un petit peu son côté legend, hein, puisqu'on voit vraiment que c'est une BD prétexte pour la carte. Ça se lit facilement en 10 minutes, un quart d'heure. Bon, voilà, c'est un peu léger, mais quand même bien sympathique. Donc c'est les chouchous de Rouchou, c'est un one shot par Todd Ancestral Z, Bruno Waro et Mojo Jojo chez Ankama.
Tu parlais de Beowulf, Thomas.
Bilouf.
De Bilouf.
Oui,
Bilouf. Ouf.
Ouf. Salut Bilouf. C'est clair.
À Bilout.
À moins que tu veuilles un jingle.
Non, ça ira. Allez.
Allez.
Fais-moi plaisir.
Ah.
Cinéma vous est présenté en Dolby Mono sur Sound. Oui, Thomas.
Après Bilouf, voici Beowulf, le vrai, l'unique, enfin pas celui de Christophe Lambert, l'autre. La légende de Beowulf, donc édité en DVD chez Warner, film de Robert Zemeckis, en motion capture avec Ray Winston, Anthony Hopkins, John Malkovich, Brendan Gleeson, Angelina Jolie et Robin Whitepen. Bon voilà, c'est pas du casting lourd ça par contre, hein. Bon voilà, alors qu'est-ce que
ça fait beaucoup d'entrées ça.
La queue de Mickey, qui c'est qu'il veut. Ah, tiens, hop là. Dans l'ancien temps au Danemark, le château du roi Hrodgar est régulièrement attaqué par le terrible Grendel, immonde créature vivant dans une grotte. Devant le carnage, le roi déclare qu'il offrira sa fortune et la gloire à celui qui le débarrassera de la créature. Et là surgit de la mer en furie le viking Beowulf venu...
Moi, d'où tu veux rire?
Moi, d'où tu veux y rire? Donc c'est l'édition collector. Alors déjà, on peut parler du revisionnage du film, puisqu'on avait déjà chroniqué ce film sur cette antenne. C'est toujours du bon. Voilà, il perd pas d'intérêt à la deuxième vision. Même si effectivement le premier choc au cinéma en voyant ce film, c'est l'incroyable violence des combats et on va dire paradoxalement le réalisme aussi. Puisqu'il y a, on a un combat avec un dragon, on n'avait jamais vu ça avant.
Réalisme dragon, mais bien sûr.
Oui, mais en fait, t'as plus l'impression que c'est comme ça que si les dragons avaient existé, les combats contre eux seraient déroulés. Voilà, c'est pas la main dans le dos avec ha, je vais te taper.
Et attention, avec ma rapière, je fais un 100 magique, hop, un 395. J'adore jouer à Roll Quest.
Oui, ou la Triforce.
Oui, RollQuest, RollMaster ou RuneQuest, mais
et RollQuest, non, c'est RollFin aussi.
Ah, et Roll, ok.
Donc voilà, le film est super et pertinent, intelligent, fin. Donc bon, c'est fin, oui, même si c'est bourrin.
Bon, enfin, ça se massacre sans fin.
En tout cas, le film, c'est du très bon. Même si c'est de la motion capture, Angelina Jolie à poil en espèce de sorcière, ça le fait aussi. Hein. Bon, voilà. La technique de la motion capture, ça consiste en quoi? C'est en fait, il y a une équipe technique qui barde de capteurs les acteurs, y compris plein de capteurs sur les paupières pour avoir tout le jeu d'acteurs sur les visages. Et ensuite, ils placent les caméras.
Ils ont fait un maillage extrêmement fin. Hein. Ce qu'on a vu dans les making of, c'est.
Oui, ils placent ensuite les caméras virtuelles où ils volent dans un décor totalement virtuel. Il faut savoir quand même que les acteurs, même les chevaux, ont été bardés de capteurs. Ce sont des pour les animes, tout ce qui est être vivant dans le film. Donc à part le dragon évidemment a été bardé de capteurs au début, donc ça permet justement à Zemeckis de utiliser sa caméra actuelle comme il veut, c'est-à-dire qu'on peut avoir un passage en dessous d'un pont suspendu en flamme avec des chevaux qui circulent au-dessus ou un guerrier qui menace d'une lance l'œil de Beowulf, mais ça tu le vois que une fois que la caméra a tourné à 180 degrés, donc c'est pas mal en fait, ça permet de varier les points de vue et t'as pas l'impression que c'est gratuit, que le mec il dit ouais youpi on va y aller à fond, non, c'est à chaque fois c'est pour dire quelque chose, c'est assez pas mal de ce côté là alors les bonus, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment les inévitables étapes de la production, et mais c'est plus dans une optique pédago plutôt que oh là là mais quel qu'il est beau lui, qu'il est fort, c'est toujours bien de travailler avec lui, nanana. On voit même Tom Hanks qui visite le plateau, mais c'est plus branché déconnade, donc ça c'est bien sympa à voir ça. On voit ben voilà tout le côté technique. Il faut savoir aussi que les acteurs au début ont été photographiés dans on leur a fait des habits exprès pour qu'ils se voient en photo aussi devant un miroir, comment ils de quoi ils auraient l'air ensuite, même si les costumes on les voit pas dans le film puisqu'ils sont recréés numériquement. Et puis surtout on voit que Zemeckis réussit son pari, puisque dans le rôle de Beowulf il prend un gars, Ray Winstone, qui nous avait plus habitué à du film d'auteur anglais et qui est très ventripotent, qui ne correspond absolument pas au physique du personnage tel qu'il apparaît à l'écran, mais qu'ils ont gardé pour la présence à l'écran, pour sa présence vocale et sur le jeu d'acteur du visage également. Et donc ça, c'est pas mal, tu vois, on voit Zemeckis en train de parler à Tom Hanks justement, qui dit ouais, par rapport au Pôle Express, puisqu'ils avaient tourné ensemble avec la même technique, c'est de ce dont on parlait, on a toujours rêvé de faire ça, mais voilà, on peut prendre un acteur qui ne corresponde pas physiquement au rôle ensuite qui sera à l'écran final, ça c'est pas mal. Ça le regret, on ne voit pas Angelina Jolie dans le tournage, elle a dû mettre une clause, oh là là, je veux pas apparaître dans les bonus, ça c'est un peu dommage. On voit aussi à l'instar de Robin Williams, qui avait influé sur le rôle du génie dans Aladdin, mais on voit que ils ont confié à Crispin Glover le rôle de Grendel. Ils sont aperçus, ils avaient fait un physique de Grendel avec des furoncles sur le front et tout, ils ont dû les virer parce qu'ils sont aperçus que l'acteur jouait vachement avec les mimiques au-dessus des sourcils, donc pour ne pas perdre ces subtilités dans le jeu, ben ils ont bougé le faciès du monstre, donc ça c'est pas mal, c'est assez t'apprends plein de trucs de ce côté-là. Et puis voilà, on voit aussi l'interview de Neil Gaiman et Roger Avary pour le scénario. On voit ils expliquent effectivement comment ils sont partis ils ont reconstruit le conte en fait, puisqu'ils ont supposé qu'il avait été un peu édulcoré par les moines et qu'il avait retranscrit, puisque c'est la légende la plus vieille, la première légende retranscrite en anglais, en langue anglaise. Donc voilà, il explique exactement cette genèse là.
Et c'était quand même une vieille tradition de l'église pour ça, hein. Il suffit de connaître justement le coup des légendes dorées sur les saints, ou justement ce qui est devenu la légende de la table ronde. Qui est d'ailleurs plus ou moins inspiré pour certains éléments de Beowulf, complètement édulcoré, pas mal de pièces sabrées et tout le reste. Hein. Puis déjà à l'époque il y avait Focus Group.
Ouais. Et puis on voit aussi les incroyables travaux préparatoires graphiques de Doug Chiang. Sont oh là là, c'est trop beau. Voilà, donc un excellent investissement que ce DVD de la légende de Beowulf. De Robert Zemeckis, c'est édité en édition collector chez Warner, et encore une fois, ne confondez pas avec le Beowulf de Christophe Lambert.
Un petit peu de bourrinage pour rester sur la bonne ambiance là. KMFDM, adios. KMFDM, aka A Drunk A Ghost War. Adios, extrait de l'album du même nom.
On fait dans le fin aujourd'hui.
Ah ouais, c'est le supplément week-end numéro 165. On va essayer de pas faire péter les watts. Bon, heureusement, on est toujours à l'antenne. Un petit peu d'ambiance tranquille là. Pour entamer du sport. Du sport est en train de boire, donc je vais embrayer sur une brève. Sachez qu'en ce moment, à Londres, vous pouvez voir Royal Shakespeare Company, une production de Hamlet avec, s'il vous plaît, tenez-vous bien, David Tennant et Patrick Stewart.
Patrick Stewart est un membre émérite de la Royal Shakespeare Company où il a fait ses premières armes en tant qu'acteur.
Hein. Oui, et
pour
Tennant...
lui, c'est un retour aux sources.
Et Tennant aussi.
Ce qu'il avait déjà fait.
Oui, et la production du théâtre a été obligée de dire non, ils ne signeront pas des objets à l'effigie de Doctor Who ou de Star Trek, c'est non, ce sera que à l'effigie d'Hamlet.
Alors bon, ouais, des goodies Hamlet.
Ouais.
Bien.
Enfin, de la production du théâtre,
ouais,
hein,
précisément. Les crânes USB fluorescents.
C'était genre de To Be or Not To Be de Mel Brooks.
Beat me up.
Bon, ok, j'y vais. Avec, on n'a pas le générique, alors bon, on va pas vous passer.
Lequel,
X-Files. Aux frontières du réel. Ne serait-ce que pour avoir le plaisir d'entendre JB dire ah ben non, je connais pas cette musique. Je regarde pas la télé.
Ah, t'es catalogué maintenant.
Alors, concernant Urgence, dont les trois premiers épisodes de la saison 14 ont été diffusés hier soir par France 2, je tiens à signaler quand même que le générique que vous avez passé la semaine dernière, qui était le générique que tout le monde connaît, hein, d'Urgence, enfin bon, je chante assez mal, quoi, donc laissez tomber. Mais ce générique n'est plus le générique dans la saison 14. Le générique a été un petit peu raccourci, on va dire, hein. C'est-à-dire que bon, bah, il y a toujours la séquence d'ouverture avec le, rappelez-vous, les épisodes précédents.
Précédemment.
Non, ça c'est l'urgence. Hein. Voilà. Donc et ensuite, bon, bah, c'est les petites images en flou que t'avais là, IR, tu sais. Enfin bon, le générique.
Avec
quoi.
45 typos qui se succédaient.
Voilà, ouais. Bon, bah, ça c'est très court. Hein, ça a duré 10 secondes maximum. Et ensuite, clac, ça démarre avec le début de l'épisode et bien sûr, on inserte les crédits, hein, avec les acteurs. Enfin bon, et tout le tout team, quoi. Voilà, pour vous parler de Urgence. Alors c'est bien, ils ont retrouvé Nila, qui en fait s'était fait piétiner à la fin de la saison 13. Elle participait à une manifestation anti-guerre, anti-Irak et tout ça, et une bombe pète, on sait pas trop ce que c'est, et donc tout le monde essaye de partir, de s'enfuir et tout, et dans la cohue, eh bien Nila se retrouve au sol et donc se fait piétiner par la foule. Et donc, bah, dans le premier épisode, le premier épisode de cette saison 14, eh bien, les blessés qui arrivent aux urgences, eh bien, sont les blessés de cette manifestation, justement. Dont Nila, donc, qui va être couvé par tout le Cook County et toute l'équipe de l'Emergency Room. Je vais y arriver quand même. Sinon, bon, bah, ça va, ça continue à bien tenir la route, hein, c'est pas mal, hein, le reflux annoncé, il y a eu une période de mou, hein, pendant on va dire les années Goran Vyshnik, hein, je suis désolé pour lui, comme enfin bon, on s'attachait plus aux romances sentimentales qu'il pouvait y avoir entre les différents personnages que à l'action pure, on va dire, et là bon bah ok, hein, on peut dire que l'action, le côté un plus médical a repris un petit peu le dessus, et c'est pas plus mal en fait, hein, vraiment c'est pas plus mal. Bon, il y a quand même encore toujours des histoires d'amourettes et tout, ils sont toujours deux à essayer de se taper Nila, mais enfin là comme elle en réduque et tout, quoi, ça va être un petit peu dur, hein. Il y a Leland Dorser, hein, qui joue le rôle de Doumenko, le chirurgien. Et on a un Stanley Tucci qui est absolument magnifique. Alors bon, j'avais dit la semaine dernière, je vous préparais un topo sur Stanley Tucci, toute sa carrière et son œuvre. Bon, bah, vu les mauvaises nouvelles de cette fin de matinée concernant les metteurs, je me suis dit, bon, je vais laisser un petit peu tomber. Si c'est pour travailler pour rien, c'est pas la peine. Hein,
donc, parce que tu l'aurais fait au dernier moment.
Ouais, vite fait, mais bien, quoi. Il suffit d'une bonne technique, quoi, tu vois. Pour
Wikipédia.
Non, pas Wikipédia.
IMDB ?
Surtout pas, quoi. Alors, vas-y, tu l'as alors Non, ah bah voilà.
Oh là là.
Bad Ball, ouais. Je l'ai pas. La place, c'est Twilight Zone.
Non, ça le fera pas quand même. Alors, X-Files, le film sort mercredi prochain. Hein, le nouveau X-Files Régénération avec Chris Carter, réalisation, Frank Spotsnitz, scénario, c'est-à-dire les originaux du début de la série. Et bien entendu, David Duchovny et Gillian Anderson dans le rôle de Scully et Mulder, car dans la version originale, on dit pas Mulder, comme en version française, mais Duchovny dit bien Mulder.
Mulder.
Alors, bon, voilà, quoi. Alors, le nouveau film, il est annoncé comme étant non pas la suite du premier X-Files, qui faisait la part belle à une grosse partie de
conspiration.
la mythologie X-Files, à savoir l'histoire de la conspiration,
mais surtout
le département 51, l'homme à la cigarette,
les abeilles. Mais voilà. Surtout que le premier film, la suite directe, c'était la saison d'après, puisque le film faisait la jonction entre la saison 5 et 6.
Oui, mais en étant justement partie prenante justement quoi de la continuité de l'histoire, alors que le nouveau Régénération peut se voir comme un épisode très long, en fait, mais à part. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir un épisode X-Files est une série qui est justement qui balance entre deux côtés les histoires très simples qui peuvent se voir début de l'épisode, fin d'épisode, point. T'as pas besoin d'en regarder plus. Tu as eu une histoire complète, hein, c'est-à-dire la résolution ou pas d'une enquête un petit peu paranormale, on va dire, ou un petit peu surnaturelle. Et l'autre partie, justement, hein, qui était un petit peu le fil rouge X-Files, et qui était justement cette histoire de conspiration.
Mais qu'est-ce que la vérité?
Et qu'on n'a toujours pas compris à quoi ça rimait, que bon.
La vérité, elle est sur Fox News.
Je crois que si, la fin, c'est l'homme à cigarette déguisé en transformé en indien qui fume par la gorge.
Oui, mais enfin bon, hein, c'était un petit peu nébuleux quand même à la fin, on va dire.
Oui, ça ressemble plus à n'importe quoi.
C'était un petit peu n'importe quoi quand même, hein, on va dire. On était un peu lost, quoi, tu vois, quoi. Première saison, quoi. Alors, pour préparer justement quoi cette sortie de X-Files Regeneration au cinéma mercredi prochain, eh bien Paris Première a eu l'excellente idée de nous repasser des épisodes de X-Files, mais non pas dans la continuité de la série, parce que la série fait quand même 9 saisons, donc ça fait un peu lourd, quoi. Hein. Alors il faut savoir que au départ de la première saison, septembre 93, diffusé par Fox, on a eu les deux héros, Scully et Mulder, hein, Scully étant agent du FBI chargé de faire un audit dans la division des affaires X, c'est-à-dire des affaires un petit peu classées, des affaires qu'on n'a pas pu résoudre parce qu'elles étaient un petit peu trop nébuleuses, on sait pas trop, et que donc elle est chargée en fait d'espionner un petit peu ce que Fox Mulder, parce que bon bah lui c'est l'électron libre du FBI, c'est le type qui a résolu brillamment dès sa première enquête un cas de criminel de tueur en série que personne n'arrivait à choper, lui il arrive et tout, hop, pas de problème, je vous le trouve et tout, mais comme il était électron libre, hop, on le case genre tiens dans un bureau un petit peu tout pourri et tout, démerde-toi.
I want to believe.
Ouais. Et au fur et à mesure des saisons, bon, justement avec cette histoire de conspiration, ça se délite un petit peu. Fin de la saison 7, Fox Mulder, enfin David Duchovny, qui avait d'autres chats à fouetter, surtout d'autres chats avec sa femme, décide un petit peu de mettre la pédale douce et de se désolidariser un petit peu de la série, ce qui fait que dans la saison 8, on voit plus que la moitié du temps, en fait, et dans la saison 9, bon bah il apparaît que dans le dernier épisode, sachant qu'il est les deux personnages principaux Scully et Mulder sont remplacés par un autre couple,
Robert Patrick,
magnifique, excellent, T-1000. qui tire bien son épingle du jeu quand même, mais ça n'a pas suffi hein, à faire que la série puisse continuer, donc la série s'arrête au bout de 9 saisons. Alors ce qu'a fait Paris Première, plutôt que d'essayer de diffuser l'émission plus ou moins dans la continuité comme ça au fur et à mesure des saisons, elle a tout simplement décidé de faire voter les internautes quant au choix des épisodes et de diffuser donc ces épisodes. L'avantage sur Paris Première, hein, c'est qu'on peut voir les épisodes en version multilingue, donc en version originale, et que ça change quand même pas mal de choses. Bon, la version française est tout à fait excellente, hein, en ce qui concerne X-Files. Il faut quand même rappeler que X-Files est la première série, quand elle a été diffusée sur M6 dans la fameuse trilogie du samedi soir, a contribué à faire de M6 une chaîne qui avait un petit peu de répondant, qui avait un petit peu de matière, et qui, avec cette espèce de contre-programmation un petit peu agressive, genre ne sortez pas le samedi soir, restez devant votre télé, regardez, il y a des trucs vachement intéressants quand même à la télé samedi soir, hein, alors que généralement le samedi soir on essaie de caser des trucs un petit peu plus pour les
ils
vieux.
Sont pas méchants vers Sébastien.
C'est plus pour les vieux, pour la
Arthur et compagnie.
D'accord, hein, pour les CSP+, 45 ans, 50 ans, que pour les jeunes de 20 ans.
Tu parles d'Arte, là? Ou de Louis Laguigne?
Non, plutôt d'Arthur.
Et Patrick Sébastien.
CSP+, Arthur.
Alors donc, là, M6 frappe quand même un grand coup, parce que bon, elle a réussi à fidéliser, justement, quoi, une audience. Elle a réussi, eh ben, à concurrencer sur certaines soirées les grosses chaînes hertziennes, à savoir France 2 et TF1. Du fait, pour en arriver à un point, que TF1 maintenant, le samedi soir, diffuse des séries. Hein. La preuve encore ce soir, c'est CSI Miami avec Lost A à suivre. Donc, on voit que les autres chaînes ont pris le pas. Là, le pari est complètement réussi pour M6. M6 qui a récidivé après avec la série Charmed, toujours diffusée le samedi soir, puis Smallville. Enfin bon, c'est quand même assez intéressant. Alors concernant Paris Première, donc qui nous diffuse ces épisodes, ça se passe le jeudi à 20h50, 3 épisodes donc qui sont diffusés à la suite, hein, donc je rappelle en version originale, donc là ça vaut quand même le coup, quoi. Là c'est assez sympathique, une espèce de relecture comme ça en VO qui est sympathique, intéressante, qui permet de mieux juger le jeu des acteurs, hein, que ne l'est la version française, parce que bon, on l'a déjà dit, hein, l'exemple le plus flagrant, hein, d'une série qui est sauvée par le doublage, hein, c'est bien entendu. Vous allez me dire
Nicky Larson.
Non, pas du tout. Non.
Dommage, ça aurait
Ken
pu.
Le survivant.
Roger Moore et
Tony Curtis. Amicalement vôtre,
hein, dans la version anglaise.
Oui.
Et bon,
oui.
C'est pas terrible, ça le fait pas. Alors que bon, dans la version française, on se fend la gueule. Il y a
À vrai dire, je crois même que même en Angleterre, ils avaient pas obtenu de super bons scores et qu'ils ont continué pour.
La série s'est arrêtée parce que justement, il n'y avait pas de bons scores. Ça marchait pas du tout. Ça n'a pas du tout accroché.
Pourtant, il y a eu 4 saisons.
Ouais, mais bon, ils auraient pu en faire vachement plus, quoi. Le problème, c'est que ça collait pas tellement, ça accrochait pas, c'était des scores moyens au niveau de l'audience. Il y a moins de saisons, il me semble qu'il y a 2 saisons maximum, hein. On a tellement l'habitude de la revoir rediffuser.
Moi, je croyais qu'il y en avait qu'une.
Une et demie, enfin bon, c'est un petit peu presque 2 saisons, quoi. Mais bon, ça n'a pas duré si longtemps que ça, quoi. Alors que bon, la version française, due au talent des doubleurs, a bien fait que
le samedi après-midi sur la 6.
Il y a bien
qu'une seule saison de 24 épisodes.
Voilà,
mais
c'est ça. Une saison. Il me semblait que c'était une saison et demie, quoi. Que ça avait été tourné sur plus longtemps qu'une saison, mais c'est une saison de 24 épisodes. Donc, là, c'est l'exemple qui est le plus connu, hein. Comme quoi, des fois, les doublages, ça peut vraiment sauver. Et dans le cas de X-Files, les doublages sont bien entendu excellents, quoi, en français. Mais la version originale, les acteurs aussi sont vraiment très très bons, quoi. Donc, il y a pas de problème. Hein. On vérifie encore une fois que David Duchovny, il s'est très bien joué. Il y a pas de problème, hein. Même si on y a eu droit à Californication en version française, j'imagine que ça doit le faire aussi bien, sinon mieux, en version originale. Et Gillian Anderson, de toute façon, il n'y a pas de problème, elle tire également très bien son épingle du jeu. Les 3 épisodes qui sont diffusés jeudi prochain sur Paris Première à partir de 20h50.
C'est les épisodes élus par les fans, alors.
Voilà, c'est ça, qui ont été choisis par les fans.
Alors, il y a Tooms.
Non, pas ce coup-ci. Ah. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu la semaine dernière.
Il
n'y
a pas improbable, évidemment.
Non.
Oh,
non, mais bon, il y a
9
saisons de 22 épisodes par saison. Bon, il y a quand même le choix, hein, sachant qu'il y a grosso modo entre un tiers et la moitié des épisodes qui concernent justement cette conspiration et qu'on ne peut pas justement voir comme ça sans être dans la continuité, quoi, au niveau visionnage de la série. Ils ont bien entendu privilégié les épisodes qui sont des one shot, des épisodes qui se suffisent à eux-mêmes, hein. La semaine dernière, on avait l'épisode hommage à The Thing, la chose dont Carpenter avait fait l'excellent remake, quoi. Donc c'est pas mal, ça le fait bien. Alors là, c'est les trois épisodes sont dans l'ordre des épisodes de la saison 3 d'ailleurs, hein. Le premier, c'est la guerre des coprophages. Le deuxième, voyance par procuration.
Ah,
le troisième,
excellent celui-là.
Ouais, ouais, ouais. Et le troisième, meurtre sur Internet. Les deux premiers sont moins 10 et le deuxième est moins 12. C'est X-Files, ou Frontières du Réel, si vous préférez la version française. La semaine prochaine, sur Paris Première, à partir de 20h50.
Il y a même des épisodes qui ont été scénarisés par William Gibson. Qui n'étaient pas les plus mauvais d'ailleurs.
Oui, oui, il y a même un épisode hommage au film de la Hammer en noir et blanc, quoi, dans la saison 4, me semble-t-il, hein, qui était vraiment très très bien, magnifique. Oui. Enfin bon, c'est quand même une série à regarder ou à re-regarder, hein, parce que bon, on s'amusera plus à essayer de fouiller les petits détails qu'on a un petit peu loupés, quoi, lors de la première vision sur M6 à l'époque, quoi. Là, bon, c'est quand même une des grandes séries, hein, du siècle dernier, quoi, en fait.
Et c'est là que tu vois que ça a vachement...
Ouais,
en fait, ils passent leur temps à marcher dans le noir avec des torches.
Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, attention, hein, parce que c'est quand même eux qui sont à l'origine de la nouvelle tenue de la torche, tu sais, quoi. C'est pas la torche que tu tiens comme ça,
ouais,
devant,
c'est,
mais
c'est comme ça, ouais.
Hein, ouais, ouais. À la pompière, comme les pompiers, quoi, hein, tu vois.
Et pareil, c'est quoi. L'une des dernières séries où la caméra n'est pas une caméra portée systématique qui trempe partout.
À la 24.
Entre autres.
Ce qui est pas plus mal, hein, de temps en temps.
Oui, parce que
moi, ça repose. Puis bon, l'ambiance, il est vrai que bon, dans ce genre de série, bon, il vaut mieux pas que ce soit trop saccadé, quoi, quand même. Autre série qui est, on va dire, rediffusée, mais enfin qui est regardable pour la première fois. En clair, on va dire, hein, sur une chaîne publique, c'est l'excellente, mais alors ça c'est carrément excellent, hein, pour sa première saison, cette série a obtenu l'Emmy Award de la meilleure comédie. Pour la première saison, bon, faut quand même le faire.
Atico ?
Pas du tout, non, c'est Earl, ou My Name is Earl, une série créée par Greg Garcia, qui a ramé comme une bête pendant presque 2 ans pour trouver une chaîne qui accepte de diffuser cette série, son idée de série, son pilote et tout. Parce que bon, ça plaisait pas du tout. On disait bon, histoire de loser et tout. C'est quoi ce truc de mecs qui glandent toute la journée, qui font que des, qui vivent de magouilles. Enfin bon, un truc improbable, quoi. Mais quand même, un humour excellent, féroce, travaillé, des personnages hauts en couleur, des interprètes magnifiques, hein, tout ça a été donc diffusé à partir de septembre 2005 sur NBC. Ça a été créé par Greg Garcia, donc, et pour l'instant, bien, la 4e saison est en fin de tournage et va bientôt pouvoir être vue par les ricains. Nous, eh bien, on va attendre la 3e saison sur Paris Première, qui a été la première chaîne en France à la diffuser. Mais par contre, on peut voir justement sur M6 la 2e saison à partir de vendredi prochain. Alors, le problème de My Name is Earl, c'est que ça a toujours été diffusé un petit peu comme ça, en catimini. Pas pour Paris Première, qui a toujours privilégié donc cette niche de l'avant prime time, c'est-à-dire 19h30, 20h30 le samedi et le dimanche pour ces séries comiques qui ont le format réduit, quoi, à savoir 30 minutes, 25 minutes, hein, c'est pas le format 52 minutes d'un épisode classique de série, mais c'est plutôt le format, on va dire, des séries comiques comme Mon Oncle Charlie, Two and a Half Men, quoi, c'est-à-dire des épisodes d'une demi-heure, hein, ce qui est largement suffisant parce que bon, bah, au niveau comédie, bon, bah, y a pas de problème quand c'est bien condensé et tout. Ça marche et tout.
Il vaut mieux que ça garde
impeccable.
Le rythme, justement.
Voilà, c'est une histoire de rythme aussi, quoi. Et là, c'est impeccable. Donc, l'histoire, hein, c'est l'histoire de Earl Hickey, interprété magistralement par Jason Lee, qui n'est pas de la famille de Bruce, du tout, comme on a pu l'entendre lors de...
La preuve, il est toujours pas mort.
Lors de la diffusion du dernier Grand Prix moto à Laguna Seca en Californie. Non, il était présent sur le circuit, mais non, il a rien à voir. Hein. Laissez tomber, les gars, hein. Occupez-vous de moto, quoi, mais n'essayez pas avec les acteurs. S'ils ont quand même réussi à savoir qui était Tom Cruise, bon, c'est quand même sympathique, mais Tom Cruise, on s'en tape, quoi. Alors, Jason Lee qui interprète Earl Hickey au début de la série, ce qu'il fait, quoi, c'est que, bon, bah, c'est un glandeur et tout, c'est un mec, tout au début, là, une des premières scènes et tout, quoi, c'est que, bon, bah, il voit une bagnole arriver dans un magasin et tout, le type sort de sa bagnole, oublie de fermer la bagnole, donc qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, il essaie de fouiller dans la bagnole pour voir s'il n'y a rien à tirer. Tout, bon, il tire 2-3 trucs, genre un paquet de bonbons, des merdes et tout, quoi. Il est tout content, Et il rentre dans le magasin, il va s'acheter un ticket de loto. Il gagne le ticket de loto, quoi. Donc il est tout content, quoi. Il remarque qu'il a chopé les bons numéros. Il sort et tout, et puis bam, il se fait renverser par une bagnole, quoi. Enfin, mort. Et donc après cet accident, quoi. Bon bah il a une révélation, quoi. Il se dit bon bah, ok, j'ai toujours vécu par le mal, j'ai toujours fait des trucs qui étaient méchants et tout. À partir de maintenant, eh ben je vais faire une liste de résolutions. Je vais essayer de réparer tout le mal que j'ai commis. Donc il va se rappeler tout ce qu'il a commis de mal. Oui, celui-là, je l'ai entubé et tout, quoi. Donc je vais essayer de faire une bonne action, hein, qui va contrebalancer la mauvaise action que j'ai fait par rapport aux personnes qu'il a pu léser par le passé. Et donc ça donne des situations qui sont assez rigolotes et tout. Mais il est épaulé par ça, par un casting en béton et surtout par des acteurs qui jouent très très bien. Alors, il y a son frère qui est joué par Ethan Suplee, qui joue le rôle d'un mec qui est simplet, on va dire, hein, limite autiste. Enfin, tu vois, pas le mec super développé et tout, quoi, mais qui a une logique d'une simplicité vraiment radicale, quoi. C'est un bonheur. À ses côtés, il y a Eddie Stipples, c'est le black qui a les cheveux on dirait
coupe afro.
Coupe afro, mais enfin bon, avec pétard explosé dedans, quoi, tu vois. Il y a pas de peigne qui est passé depuis longtemps, hein. Qui est son meilleur pote, Krabs, mais qui en fait lui a piqué sa femme, quoi. Jamie Presley, une blonde plantureuse magnifique, hein, qui est aussi très très bonne, hein, dans son rôle de nana qui a l'air un petit peu écervelée, qui pense qu'aux bonnes choses de la vie, hein, c'est-à-dire la bouffe, le fric, les belles bagnoles, les belles fringues et tout, quoi, mais qui est pas aussi con qu'elle en a l'air pour une blonde, on va dire. La série a tellement bien marché donc qu'au bout de la première saison, eh bien Emmy Award pour la meilleure série comique, et que bah de ce fait, bah de l'autre côté de l'Atlantique, ils se sont dit oh putain, ce serait bien de faire d'apparaître dans cette série en tant que guest et tout, quoi. Dans la première saison, on a Beau Bridges qui lui dans les rôles comiques, bon bah il y a pas de problème, hein. On l'avait vu dans la série dans lequel il joue le rôle du juge Maximum Bob. Il est excellent, quoi. De toute façon, les frangins Bridges, la famille Bridges, y a pas de problème, hein. Ils tiennent la route quand même. Dans la saison 2, donc, on va pouvoir voir à partir de vendredi sur M6, 0h05. C'est pas un horaire, mais tant pis, hein, on s'en contentera. Il y a Burt Reynolds. Et dans la saison 3, hein, qu'on pourra bientôt voir sur Paris Première, hein, Alyssa Milano. Waouh! Et Paris Hilton.
Ça s'est joué, ça?
Ah bah oui, encore.
À part une statue de cire,
ça va quand même. Donc c'est sur M6, My Name is Earl, c'est vendredi prochain à partir de minuit, avec à chaque fois deux épisodes diffusés à la suite. On change radicalement de style avec Red Cap, Police Militaire, une série dont je vous ai déjà parlé, une série anglaise qui n'a duré que deux saisons. Elle a commencé en 2004, donc ça fait longtemps que c'est terminé. C'est Série Club qui nous la diffuse tous les lundis à 20h45. Alors ça raconte les aventures d'une équipe de policiers, mais de police militaire, hein, comme son titre l'indique, qui sont chargés d'enquêter dans les milieux militaires, dans les garnisons britanniques, hein, dès qu'il y a des magouilles et tout. Alors ce qui a l'air récurrent, hein, dans l'armée britannique, quoi, c'est soit c'est des balles perdues, des mecs qui se font dégommer, c'est pas vraiment des balles perdues, ou soit c'est le trafic de stupéfiants qui marche aussi très très fort, hein, histoire d'arrondir ses fins de mois. Mais c'est vraiment toujours excellemment traité, les acteurs sont excellents, hein, à l'image de Tamsin Otwet qui joue le rôle principal. On a pu la voir également dans Arnaqueur VIP plus récemment, ou dans Hôtel Babylon. C'est elle la patronne de l'Hôtel Babylon, hein, dans cette excellente série britannique. Et il y a également David Hodge, hein, qui joue le rôle du patron de cette équipe d'enquêteurs. Mais ça, c'est vraiment très bien. Les sujets qui sont traités ne sont pas traités à la légère, on va dire. Il y a toujours des petits sous-entendus dans les dialogues qui montrent que on approfondit un petit peu le sujet. On se cantonne pas uniquement à l'enquête, mais on a des petites réflexions comme ça qui concernent un petit peu l'état général, on va dire, pas seulement des forces armées, mais l'état général du monde. C'est des fois assez bien foutu. Dans le dernier épisode de la saison 6, ça démarre très fort. Alors musicalement, le générique, alors ça va te plaire, JB, la musique de générique est faite par un groupe de Britpop du siècle dernier qui s'appelle Reef. Ça te dit quelque chose, non? The Reef. Alors.
Mais non, je crois.
Mais il a un problème avec les génériques, de toute façon.
Laisse tomber, quoi. Et dans le dernier épisode et tout, ça démarre très fort avec un lieutenant-colonel de l'armée anglaise, stationné en Allemagne, qui, au volant de sa BMW, écoute Motorhead à fond les manettes et tout. Bon, ça le fait bien, quoi, quand même, quoi. C'est assez sympathique. La saison 2 démarre à partir de lundi. C'est la deuxième, dernière saison, donc, de Red Cap Police Militaire. Alors, la première saison, il y avait que 6 épisodes. Là, dans cette deuxième saison, il n'y aura que 8 épisodes. Deux épisodes sont diffusés à chaque fois par Série Club. Donc lundi, on aura droit aux deux premiers épisodes de la saison 2, à savoir Trahison, qui va amener toute l'équipe, ou du moins une partie de l'équipe de cette police militaire britannique en Bosnie. Parce que bon, bah, il y a des forces de l'OTAN qui sont encore stationnées en Bosnie, hein, il faut le savoir. Hein. Et le deuxième épisode s'appelle Un véritable amour. Red Cap, c'est police militaire, c'est sur Série Club lundi à partir de 20h45.
h 09, j'ai oublié le bip.
Oh là là.
Pas classe.
Ah bah c'est pour ça, c'est pour ça. Alors comment finir en beauté une série dont la chaîne ne veut plus ?
En l'éditant en DVD, ça c'est déjà fait avec...
Tout à fait.
Avec, merde, ben, et ensuite d'en faire un film pour Serenity.
Voilà, ou faire un téléfilm final. Qui va essayer
dans lequel
de conclure,
on fait tout, voilà.
Qui va essayer de conclure, hein, qui va ramener un petit peu le maximum de personnages qui ont été aperçus dans la série, bon, que ce soit les bons ou les mauvais, bien sûr, hein, parce que les méchants, surtout quand c'est des bons méchants, ça le fait toujours très fort. Et c'est le cas de Farscape, cette série dont je vous ai déjà souvent parlé, parce que
très créée
par Brian Henson, qui n'est autre que le fils de Jim Henson.
Vous savez, les créatures, les Muppet Show,
ouais,
Dark Crystal
et tout ça. Voilà. C'est une coproduction américano-australienne, enfin plutôt australo-américaine, on va dire, hein, parce que tout est tourné en Australie. L'acteur principal, Ben Browder, est australien. Et Claudia Black également est australienne, d'ailleurs. Hein, Claudia Black qu'on a pu voir dans Pitch Black. C'est la brune qui crève au deuxième tiers du film.
D'accord. Et Ben Browder, Stargate.
Ce qu'on revoit par la suite justement, qu'il y a eu plus Farscape, donc ils se sont dit bon bah ok, on va le récupérer, et on va le faire jouer dans Farscape comme Claudia Black qu'on voit également dans Stargate. Il y a également Anthony Simcoe qui joue le rôle de l'alien qui a une espèce de dreadlock, mais c'est des dreadlocks qui sont pas des cheveux et tout, c'est de la chair quoi. Il y a Gigi Edley qui joue le rôle de la femme minérale, on va dire, hein, non végétale quoi, c'est la femme végétale quoi, c'est pas un androïde mais c'est une plante, mais bon qui a l'aspect d'un être humain quoi, en fait elle est toute bleue et tout, enfin bon c'est assez sympathique. Alors
c'est largement plus simple en général quoi, les aliens ont une forme humaine pour faire une série live, hein.
ouais mais il y a pas que hein, puisque bon bah, le vaisseau lui-même
c'est justement la grande particularité de Farscape, c'est ça,
ouais.
On a des trucs impressionnants, il y a des bestioles partout.
Il y a des bestioles partout. Le vaisseau lui-même est une entité vivante, quoi. Le pitch de départ est très simple. Hein, c'est Ben Browder qui est un astronaute, quoi, est envoyé dans l'espace, donc. Mais sa capsule,
un poil trop loin.
Sa capsule ne va pas là où elle devrait aller, donc il se retrouve paumé et récupéré donc par cette espèce d'entité qui, je me rappelle pas le titre, le nom hein, du vaisseau, mais il a un nom. Parce qu'à un moment il fait des petits quoi, tu sais, il est enceinte et tout le vaisseau, enfin bon, ouais, si c'est vraiment très très bien, hein.
C'est bourré d'idées,
super bien traité hein, pour une série de science-fiction.
Surtout qu'au départ c'est un vaisseau carcéral si je me souviens bien.
Ouais. Et donc eh ben on va suivre leurs aventures durant 4 saisons quoi. Ça s'achève par un double téléfilm on va dire hein, parce que ça va durer de 20h45 jusqu'à 23h50 hein, donc pratiquement 2 fois 1h30 et ça s'appelle Guerre pacificatrice, dans laquelle eh ben on va retrouver Scorpius, le méchant très très méchant de la saison 2 qui fait chier quoi le Ben Browder et tous les autres quoi pendant pratiquement l'ensemble de la saison. Et il y a également Ekodu je crois qu'il s'appelle quoi, celui qui a les traits un petit peu asiatiques on va dire, qui est également un méchant qui les a qui les emmerdait pendant pas mal de temps dans la fin de la saison 2 et durant la saison 3 quoi. Mais c'est un final qui est vraiment très très bien quoi, de toute façon quoi. Et c'est une série qui mérite d'être revue ou d'être vue hein, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, parce que ça montre hein, qu'au niveau série science-fiction, bah on sait faire quand même. Hein, ça vaut le coup. Et il y a pas que Battlestar Galactica dans la vie quoi. Farscape, vraiment, ça mérite autre chose que cette espèce de diffusion en catimini qu'on a pu voir uniquement sur Série Club, quoi. Hein, il faut le dire. Hein, merci quand même à Série Club d'avoir pu diffuser cette série en version originale et en version française comme ils le faisaient à l'époque. Ils le font plus maintenant. Il n'y a plus qu'une version. C'est soit version originale sous-titrée, soit va te faire foutre. T'auras que la version française, ça suffit. C'est ce soir donc sur Sci-Fi à partir de 20h45 jusqu'à 23h50. Farscape. Le final de cette excellente série de Brian Henson, Guerre pacificatrice.
Alors, je suis en train de regarder. En fait, il y a eu une adaptation en comics qui est sortie chez Wildstorm aux États-Unis en 2002. Yes. Et apparemment, ils ont annoncé que ils vont continuer justement la série comme ça en comics. L'annonce a été faite lors du Comic Con qui vient d'avoir lieu à San Francisco.
Ouais, mais c'est pas la même chose, quoi. Je veux dire, vu le.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Graphiquement, c'est, on peut pas rendre vraiment le bonheur d'avoir une série en live qui a vraiment un très très bon suivi des rendus.
Ah ouais, non. Au niveau d'accord. des effets, au niveau des maquillages, des costumes, des bestioles, enfin de tout ce que vous pouvez voir, hein, même l'animation avec les l'espèce de bataille dans l'espace et trucs comme ça. Bon bah là ça vole quand même très très haut hein, par rapport à ce qui n'est qu'une série télé quoi en fait. Hein, franchement quoi, c'est dommage quoi, mais enfin bon hein, c'est ça la télé quoi quand même, c'est ça les grosses chaînes. Je vous parle de Lost quand même un petit peu parce que bon bah c'est tous les samedis sur TF1. Alors moi j'aime bien parce que TF1 c'est quand même des putains d'arrivistes quoi et des opportunistes de merde quoi, parce que Lost a été lancé.
Pas de vérité.
Bon d'accord. Lost a quand même été lancé à grand concours de publicité et d'annonces matraquant et tout. Et ça a été bien entendu hein, le programme prime time de TF1 pour les deux premières saisons. Et après, bon ben diffusion en catimini pour la saison 3. On savait même plus quand c'était. Tu te rappelles quand c'était toi quoi la diffusion de saison 3?
Deuxième heure lundi soir.
Voilà, d'accord. Bah t'as compris quoi. Hein, t'as, ouais. Merci pour les gens qui travaillent tôt le lendemain matin. Ça fait toujours
plaisir.
Ah oui,
mais maintenant c'est le samedi.
Maintenant, bah c'est le samedi à 23h15 après les épisodes de CSI Miami. Hein, donc c'est un petit peu plus tôt, on va dire, hein, 23h15. Mais c'est surtout intéressant parce que bon bah on retrouve un petit peu ce qui a fait le charme et pas le charme de la saison 1, à savoir les intrigues complètement
loufoques,
n'importe quoi, mais avec quand même un petit côté quoi qui est attachant quoi, on va dire hein, les paradoxes temporels et histoires comme ça et tout. Ça va quand même un petit peu plus loin quoi, on va dire. On sait pas où ils vont arriver parce que bon, c'est la quatrième saison et que c'est la dernière saison hein, donc que à cause de la grève des scénaristes, eh bien au départ la saison devait faire 16 épisodes, ils ont dû réduire à 14. Bon, ils ont pas loupé beaucoup au change, mais que ça donne quand même des épisodes un peu plus denses. Ah oui.
En revanche, ils ont ça a tellement eu de succès ce format-là que pour les prochaines saisons, ils ont décidé de réduire et d'avoir autant d'épisodes parce que comme ça, à l'instar de la saison 3 où ça s'allongeait, où on n'en finissait plus, c'est toujours dense. Tu as toujours envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après.
Le rythme est nettement plus soutenu quoi.
Enfin, je me la regarde.
Les différentes intrigues, c'est-à-dire qu'ils se passent dans différents endroits hein, en même temps quoi. C'est ça le fait. Et surtout, il y a le meilleur acteur du monde. De toute façon, que j'avais pas reconnu au départ parce que là, il a quand même un peu pris un petit peu de poids.
Steven Seagal.
Il est barbu.
Celui qui joue Locke.
C'est carrément ma femme qui a été obligée de me dire mais putain, tu l'as pas reconnu et tout. Merde, tu l'as pas reconnu. Jeff Fahey, le meilleur acteur du monde donc, qui est dans Lost. Rien que pour ça.
Il joue le mec de l'hélicoptère. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ah voilà. Mais c'est dans la saison 4 ça.
Tu l'avais reconnu.
Ah oui, absolument.
Attends. Ah ouais, non mais bon.
Attends, un mec barbu, il y a que lui.
Mais il est jamais barbu.
Jeff quoi?
Jeff Fahey.
Non mais JB il peut dire ce qu'il veut hein. Il prépare pas de sujet et puis une fois que le lièvre est lâché, il peut dire ah mais oui mais bien sûr.
Non, bien sûr.
Tu sais qu'on va t'appeler papy, tu radotes hein.
Deux épisodes, donc on en est à la mi-saison en fait hein, ce soir avec Le Choix du Pardon, l'épisode 7, et Seconde Chance, l'épisode 8, à partir de 23h15, donc sur TF1, Lost.
Tu reconnais le son derrière ? Ça vient de sortir en disque.
Blade Runner ?
Non, c'est Nine Inch Nails Ghost. Hein ?
D'accord.
Et donc il vient d'arriver sortir en disque dans les magasins.
Alors qu'il était proposé de, il était offert gratuitement sur le net depuis
le premier des quatre parties.
Le premier des quatre parties, d'accord.
Voilà. Et il était en achat disponible en édition ultra limited collector, que non downloadable du tout. Okay. Voilà.
Ouais, ouais. À vos souhaits.
Putain, énorme.
Duce.
Allez, je termine avec une série qui m'avait pas tellement accroché lors des premiers épisodes parce que bon, bah, il faut bien dire que les histoires un petit peu rentrent dedans et bien bling bling de quatre nanas dans un lycée qui s'amusent à faire chier tout le monde et à draguer un petit peu.
Hélène et les garçons.
Mais c'est le traitement qui fait toute la différence, on va dire. Hein. Alors imaginez un petit peu.
Le traitement fait toute la différence, d'accord.
Une espèce d'humour, à la Ugly Betty, mais plus au ras des pâquerettes. Nettement plus au ras des pâquerettes et nettement plus centré sur le sexe. Il y a pratiquement que ça. Hein, ça donne et surtout produit par des Allemands, par une chaîne allemande, enfin qui est pas allemande quoi, mais qui est visible dans trois pays en Belgique, en France et en Allemagne. C'est RTL et donc là il s'agit de RTL allemand qui produit cette série. Qui a un nom magnifique, hein, qui s'appelle Les Allumeuses, hein, l'histoire de quatre nanas en fait dans un lycée. Enfin bon, quand tu vois la gueule et la plastique des nanas, tu te demandes ce qu'elles foutent encore à leur âge dans un lycée. Enfin peut-être qu'elles ont redoublé vu que elles pensent à tout sauf à faire leurs études. Mais c'est quand même un monument de loufoquerie, quoi, il faut dire, et de scènes assez réjouissantes, il faut dire. Bon, l'emmerdant, j'allais dire, hein, c'est que c'est diffusé par W9 le samedi soir, pratiquement en même temps que Lost, c'est-à-dire ce soir à partir de 22h15. Ce qui est aussi avantageux, c'est qu'ils adoptent le même format que pour les séries comiques américaines, à savoir les 30 minutes, hein, donc ça le fait bien, ça passe bien. Mais en tout cas, il y a beaucoup de scènes qui sont de vrais régals, quoi. Franchement, il faut le dire, c'est traité avec beaucoup de décontraction, mais surtout avec un manque total des règles en vigueur, on va dire, hein. On pousse vraiment très loin le bouchon, quoi, hein, sans que ça prête à conséquence. Rien à foutre et tout, quoi. Alors il y a quatre épisodes qui sont diffusés ce soir, dont les deux derniers de la saison 1, Le Goût et les Couleurs, hein, qui raconte un petit peu le combat entre deux nanas qui veulent devenir présidente, qui veulent déléguer du lycée et tout, quoi, pour pouvoir choisir l'uniforme du lycée, soit continuer à s'habiller comme on veut avec les fringues à la mode et tout, soit carrément revertir un uniforme. L'épisode dernier de la saison 1 qui s'appelle Lily a le cafard, où l'une des quatre nanas qui est très portée sur le sexe. Alors il y a une nana qui vient d'une famille très riche et tout, quoi, qui est toujours sapée en fringues haute couture et tout. On a une autre qui essaie de découvrir le sexe avec différents mecs et tout, qui essaye d'avoir un OM en fait, c'est-à-dire un orgasme multiple. T'as la troisième nana.
Oui, c'est pas avec le club de foot t'en auras.
Ouais. Il y a une troisième Lily, donc qui elle, bien expérimente le sexe et tout, mais y arrive, hein, de toute façon, quoi, à se taper des mecs et tout sans problème. Et dans cet épisode, c'est assez rigolo parce qu'elle arrive à se taper un avocat, quoi, qui a des manies assez bizarres, on va dire, pendant l'acte. Style écraser des insectes, des choses comme ça et tout. Enfin bon, c'est assez zarbi quand même, quoi. Mais c'est traité de manière très simple, quoi. C'est-à-dire, allez, c'est bon, ça passe, tout passe. C'est très gentil, mais c'est assez hilarant, quoi, quand même, quoi. C'est à regarder, quoi. Donc Les Allumeuses, suivi de deux épisodes de la saison 2. Donc aimons-nous les uns les autres et là, j'écris très mal là. J'arrive pas à lire. Désolé. Désolé, donc. Mais jetez-y un coup d'œil parce que bon, vraiment, ça vaut le coup, quoi, quand même, les allumeuses, sur W9 ce soir à 22, à partir de 22h15. Donc, avec Birte Walter, Simone Hulselmann et Laura Oswald, entre autres.
C'est que pour une émission coitus interruptus pour ce qui est de la préparation, on déborde pas mal, hein.
Ouais,
13h23.
J'ai plus qu'une feuille alors que j'avais prévu d'en faire une autre.
Ah.
Tu vois, mais là c'est bon, j'avais prévu de vous faire la semaine sur
RT9.
Non, là j'avais prévu TCM, quoi, mais bon, sachant que JB est là et tout, c'est les grands classiques et tout, hein, genre Gentleman Jim, des trucs comme ça.
Il y a Docteur Jivago en version remasterisée, toi ça te fait pas bander.
Non, mais ça c'est sur Fox.
J'aime bien.
TCM.
Non, la nouvelle version, tu sais, quoi. La version originale, la nouvelle version qui date de 2001.
Ah non, moi je regardais la version remasterisée. Il y a Jimmy S qui parle.
Et puis comme depuis mardi dernier, j'ai plus de chat, quoi. J'ai décidé de vous faire un truc film avec des chats.
Donc voilà. Voilà. Puisqu'on avait dit qu'on éviterait d'en parler à l'antenne, il y a une opération. C'est le Cataton. Offrez un joli petit minou kawaii
pour
du sport.
Pas pour le moment.
Si possible, pour fin novembre, pour la livraison en direct, pendant notre direct en public.
Non, pas pour le
Toulouse
moment.
Game Show, s'il vous plaît.
Pas pour le moment. D'accord. Allez, ça commence. Alors, ce soir, sur Canal Plus à 20h50, le monde de Narnia.
C'est nul.
Ouais, mais bon, il y a des gros chats dedans, quoi. Le lion.
Ah oui, il y a le lion.
La sorcière blanche et l'armoire magique. Il y a également sur
Aslan,
Disney. Il y a également sur Disney Cinémagic ce soir, un peu plus tard, à 21h40, le nouvel espion aux pattes de velours de Bob Spears avec Christina Ricci et Peter Boyle. Excellent acteur.
Et pas le
acteur.
Même chat.
Ah bah non, ça c'est sûr. Hein. Mardi, toujours sur Disney Cinémagique, Oliver et compagnie de George Scribner en 88, hein, qui est l'adaptation d'Oliver Twist de Charles Dickens, mais avec que des animaux, dont Oliver qui est un chat, bien sûr. Mercredi, alors là c'est un grand classique, La Féline de Jacques Tourneur, avec Simone Simon, donc qui joue du chat, enfin du félin. C'est sur CinéFX à partir de 21h. Jeudi, on a sur Disney Cinémagique à 20h30, Douma et ses amis. Douma est un guépard qui est recueilli par Kiskougan qui joue le rôle d'un jeune adolescent, donc qui recueille ce guépard, mais qui va se faire enlever par des trafiquants d'animaux.
Oh,
que va-t-il lui arriver? Il y a également Lucy Dickins et c'est réalisé par Jeff Bliss. Ça date de 89. Et je termine avec le classique de chez les classiques concernant les chats. Norman Tokar.
Norman.
Oh non.
Le chat qui vient de l'espace. Le film de 78 avec Ken Berry et Sandy Duncan et Roddy McDowall sur Disney Cinémagique vendredi prochain à partir de 21h50. Et t'as vu, j'ai réussi à le dire sans rigoler, sans éclat de rire.
C'est bien, c'est bien.
Hein, le chat qui vient de l'espace. Donc regarde-le quand même, ça vaut le coup. Hein, c'est pas mal, c'est sympathique. Voilà.
Bien ri, mais quand même, du sport est profondément touché. Hein, de toute façon, pas. Elle a bien vécu, hein, quand même. Elle était mignonne comme tout quand on est passé la voir, donc vraiment compatie, quoi.
Bah ouais, bah.
21 ans. Bel âge.
Non, 15.
15 ah. T'avais dit 21 au téléphone. Non, c'est 15. Pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Vlatipak, j'ai perdu mes repères, mais Thomas, peux-tu faire les résumés pour ceux qui ont pris l'émission numéro 165 en cours de route, je te prie?
Eh oui.
Et qui ont réussi à nous retrouver malgré un émetteur un petit peu plus faible.
Oui, tout à fait, nous avons eu encore une fois le plaisir d'accueillir JB, nous avons eu un topo sur le Festival des Oz, un duel de chauves-souris, des bourrins avec des épées, et on n'a pas eu de générique d'X-Files, et le bip a été oublié. Des gens perdus sur une île ont croisé des abrutis qui glandent. Du sport n'est pas arrivé à se relire. Des gens qui baisent en écrasant des insectes et des films avec des chats.
Et puis voilà. Nom d'un disjoncteur 20 KVA. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites. Ou aussi fouiller dans les archives, réécouter toutes les émissions, laisser des commentaires, poser des questions et bientôt gagner des cadeaux. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web suppléments-weekend.tk, suppléments-weekend-accent.tk, ou vous tapez supplément weekend carrément dans Google. MP3 ou Supplément Weekend FR, mais Supplément Weekend, on arrive pratiquement en premier, donc il y a pas de souci.
Mais tu as dit bientôt gagner des cadeaux, mais quand?
Ah, pour la 5e saison, on va essayer de la faire une fois par semaine. D'accord. Préparez vos questions, hein. Je les veux saignantes. La suite des programmes sur FMR avec votre cahier sportif dans l'immédiat à 15h, c'est Arma Farai pour du reggae avec Poupa Christopher in the place. À 17h, FMR 7, ses programmes pour Booster FM. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour le prochain supplément Weekend Show. À vous. Bye. Merci pour ceux qui sont en FM, qui ont pu nous écouter. Et puis, un été qui a un petit instant de fraîcheur. Ça fait du bien.
Salut. Voilà.
Ciao, bye. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Nils.
Qui a ses 30 ans.
Bravo. Magnifique. Grandiose. 30 ans de carrière.
Épique.
Magnifique.
Dans la vie, un homme doit prendre ses responsabilités.